catéchèse.
La catéchèse.
La catéchèse.
La catéchèse du Père Directeur.
Merci à vous, auditeurs, auditrices de Radio Maria. Bienvenue à la catéchèse rétroactive de la semaine. Bonjour Père Roger.
Et bonjour Maman Régine, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Bonjour aussi à Gina qui nous réalise aujourd'hui. On va prier à travers le cantique à l'esprit et juste après, on va donner la parole au Père Directeur. Merci à Gina pour ce cantique à l'esprit. Père Roger, vous avez la parole.
Merci beaucoup, Maman Régine, et merci à vous tous hein, qui êtes à l'écoute de la fréquence maternelle en ce moment. 28e dimanche du temps ordinaire en essai. Voici les lectures, hein, les références hein, bibliques de la liturgie de la parole hein, de ce 28e dimanche en essai, année de Luc. Première lecture, 2 Rois 5, des 14 à 17. Deuxième lecture tirée de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, deuxième chapitre du 8e au 13e verset, et Saint Luc, hein, c'est l'évangile, hein, tiré du 17e chapitre du 11e au 19e verset de Saint Luc. Hein, Luc 17, de 11 jusqu'à 19. Suivons attentivement la proclamation de ce texte. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent, « Jésus, maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant, « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. » Jésus lui dit, « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Chers auditeurs, chers internautes, le dimanche 28e hein, du temps ordinaire en essai est assez particulier. On nous parle de malades, notamment ceux qui souffrent de la lèpre, de la première lecture jusqu'à l'évangile. C'est pour nous une occasion d'adresser aussi une parole, hein, une parole que nous espérons édifiante hein, pour tous ceux qui nous suivent dans des hôpitaux, hein, ceux qui sont aussi dans des maisons, mais malades. Voilà, Jésus est là pour vous, hein, pour les malades notamment. L'évangile commence en nous rappelant que Jésus est en route. Il marchait vers Jérusalem, il traversait la région située entre la Samarie et la Galilée, donc il est encore au nord. Il est vraiment au nord, au début de son voyage vers Jérusalem, mais c'est un voyage décisif, parce qu'il sait qu'à Jérusalem, on va l'arrêter, on va le tuer. Il a déjà des soucis par rapport à son avenir, par rapport à la passion qu'il attend en Jérusalem. Mais malgré cela, Jésus pense aux malades. Il pense aux autres. Il continue à faire le bien, même s'il a des soucis par rapport à son voyage. Il a déjà annoncé d'ailleurs, hein, depuis le 9e, 8e, 9e chapitre, il avait annoncé à ses apôtres, « Voilà que nous allons à Jérusalem, le Fils de l'homme sera arrêté, il sera livré aux mains des hommes, ils vont le tuer, donc il pressent ce qui va lui arriver, mais malgré tous les soucis qu'il a par rapport à son avenir, par rapport à lui-même, il continue à faire le bien. Ça, c'est la première leçon qu'on peut retenir. Même un malade, celui qui a beaucoup de soucis pour lui-même déjà, peut penser aux autres et doit penser aux autres. Même en prison, c'est comme Paul dans la deuxième lecture, hein, il est en prison, mais il pense aux autres. Il pense à Timothée, il pense à ceux qui ont besoin d'écouter l'évangile, il pense à l'annonce de l'évangile. Donc nos soucis ne nous exemptent pas de notre devoir d'être des hommes de bien et des femmes de bien. même si vous avez des soucis, aidez. Il ne faudrait pas se révolter en disant, bon, écoutez, qu'il se débrouille, moi aussi j'ai mes problèmes, moi aussi j'ai mes préoccupations. Non, même si vous en avez, si vous pouvez aider, il faut aider. C'est ce que Jésus fait. Il est en marche vers Jérusalem, ville de la passion et de la résurrection, bien sûr. Il a des soucis par rapport à ce qui va lui arriver, mais il reste un homme de bien. À l'approche d'un village, les lépreux sortent. Il faut apprécier l'attitude de ces lépreux. Les lépreux qui viennent annoncer, qui viennent aviser Jésus, mais pas seulement Jésus et la foule qui l'accompagne, qu'attention, dans ces villages, il y a des lépreux. Parce que vous pouvez être contaminé. Voilà pourquoi ils sortent à l'entrée du village, d'autant qu'ils vivaient aussi dans des périphéries. Un lépreux était pratiquement expulsé, je peux dire, excommunié. Il devait aller dans les périphéries du village. Et ils sont dans les périphéries. Dès qu'ils voient une foule venir, ils s'annoncent pour faire comprendre à Jésus, aux autres, que faites attention. Et s'il y a des lépreux, nous ne voulons pas que vous soyez contaminés. Donc ce sont aussi des hommes de bien. Bien que malades, ils ont des soucis des autres. Ils ne voudraient pas contaminer les autres. Un malade qui ne veut pas que les autres puissent attraper sa maladie. Donc c'est des lépreux exemplaires. Voilà pourquoi ils se tiennent à distance, ils s'arrêtent à distance et crient parce qu'ils ne veulent pas s'approcher. Qu'est-ce qu'ils demandent ? Jésus, Maître, prends pitié de nous. Aie pitié de nous, tout simplement. Ils ne demandent pas la guérison, ils demandent la compassion. Et je crois que c'est une prière intéressante. Dieu lui-même sait ce qui est bon pour nous. Ces malades ne demandent pas la guérison, ils demandent la compassion du Seigneur. Aie pitié de nous, sois compatissant. C'est une très belle prière. C'est-à-dire, on laisse à Dieu la marge de manœuvre, qu'il fasse ce qu'il veut, pourvu qu'il soit compatissant à mon égard. Si c'est la guérison, eh bien, qu'il me l'accorde. Si c'est autre chose, qu'il me l'accorde aussi. Donc, il ne demande pas la guérison, il demande la compassion. Aie pitié de nous. Jésus leur dit, allez vous montrer au prêtre. Même là, ce sont des gens qui ont la foi. C'est différent des Naaman dans l'Ancien Testament. Naaman avait hésité. Ils viennent de la Syrie. Hein. Peut-être que chez eux, les rites de guérison sont beaucoup plus complexes. Ça prend du temps. C'est assez complexe. Mais en Israël, ça va vite. Parce que c'est le Dieu puissant. Alors Naaman, étant habitué peut-être à ces rites de guérison qui prenaient du temps, qui étaient complexes, quand le prophète lui dit « Va te laver au Jourdain », il a trouvé que c'était une insulte. Il pensait que ce serait beaucoup plus complexe que ça. Mais les lépreux font le contraire des Naaman. Ils obéissent à la parole de Jésus. En fait, leur guérison vient de l'obéissance à la parole de Jésus. Allez vous montrer au prêtre. Ils auraient pu dire, mais écoutez, c'est vous qui pouvez nous purifier, ce n'est pas les prêtres. Parce que les prêtres étaient là pour attester, pour voir si la personne a pris la lèpre, et puis déclarer la personne idoine pour entrer au temple, pour intégrer la communauté juive. Parce que la lèpre était, ce qui a la lèpre est excommunié. Il ne peut plus prier avec les autres, aller au temple, à la synagogue, parce qu'il est impur, donc excommunication. Alors, maintenant, le prêtre doit réhabiliter. Il doit d'abord vérifier s'il n'y a plus de lèpre. Alors, il va accompagner les lépreux, ceux qui sont guéris, purifiés, dans leur processus de réintégration de la communauté croyante. Alors, mais ils ont la foi. Ils partent. Et pendant qu'ils partaient, ils sont guéris. C'est ça un peu ce qui peut nous arriver parfois. On a l'impression que la parole de Dieu ne va peut-être pas dans le sens de nos attentes, mais il faut obéir à cette parole. Parce que Jésus n'a pas dit « soyez guéris ». Il a dit « allez vous montrer au prêtre ». Ils ont obéi à cette parole de Jésus. Et voilà, la guérison est arrivée. Il y a un qui revient. C'est très intéressant. 9 sont partis. Celui qui revient, c'est un étranger, un samaritain. Ce n'est pas un juif du sud, du temple, de la Judée, mais un juif de la Samarie qui revient pour remercier Jésus. Il aura et la guérison et le salut. Aux autres, eh bien, Dieu a accordé la guérison. Mais à celui qui est revenu, redire merci à Jésus, eh bien, Jésus va lui accorder aussi le salut. La guérison et le salut, des choses qu'il faut chercher, c'est-à-dire le salut du corps, c'est la guérison, mais il y a aussi le salut de l'âme qu'il ne faut jamais oublier. Merci.
Merci beaucoup, Père Roger. Gina va nous proposer le psaume et on se retrouve tout juste après.
Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations.
Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles par son bras très saint, par sa main puissante. Il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez.
Le Seigneur a fait connaître.
Merci Gina pour ces cantiques. On s'est référé au psaume 97 pour ces textes liturgiques du dimanche dernier. Voilà, on va recevoir Maman Aimée qui nous a rejoint. Bonjour Maman Aimée.
Bonjour Régine, bonjour à tous les auditeurs.
Alors on va déjà rappeler le numéro 081 99 66 098. On commence par le message d'Alexandre depuis Goma, de la paroisse Mont-Carmel. Bonjour Père, Jésus dit au seul lépreux guéri qu'il est retourné rendre grâce à Dieu que ta foi t'a sauvé. Les 10 autres ont été guéris. Est-ce qu'on peut comprendre que les 9 autres étaient juste guéris et non sauvés?
Merci beaucoup pour la question. Évidemment, comme je disais, le salut du corps, c'est la guérison, mais le salut de l'âme, c'est autre chose. C'est-à-dire que l'Évangile, là, sur ce point, voudrait nous interpeller sur les grâces qui peuvent découler d'un bienfait matériel qu'on a reçu de Dieu. Il y a des bienfaits matériels qu'on reçoit de Dieu. Ça peut être la guérison physique, guérison du corps. Ça peut être aussi d'autres faveurs que vous pouvez recevoir sur le plan social, sur le plan matériel. Mais est-ce que ça a un impact sur votre vie spirituelle? Parce que Dieu vous a concédé, vous a donné cette grâce-là que vous pouvez quantifier matériellement, peut-être même financièrement. Est-ce que ça vous pousse à chercher votre salut? Ça vous pousse à la conversion, par exemple? C'est ça. Et c'est ce qui se passe dans cet évangile. Quand il revient, c'est parce qu'il a compris que la guérison physique ne suffit pas. Il faut maintenant aller vers Dieu et rester attaché à Dieu, se convertir. Voilà pourquoi Jésus lui dira, ta foi t'a sauvé. Donc finalement, lui, il a compris autre chose. Mais il y en a dans leur relation avec Dieu qui se limite à des faveurs matérielles. Mais la conversion, le salut de l'âme ne les intéresse pas. Alors c'est ça la leçon qu'on peut tirer justement de cet évangile. Donc chaque grâce qu'on reçoit doit être pour nous un motif, une motivation de plus pour notre conversion, pour chercher le salut de notre âme.
081 99 66 098. Shalom à radio et salut Père Roger et Maman Régine. Père, dans l'évangile d'hier, Jésus guérit 10 lépreux, mais l'un d'entre eux revint dire merci et Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Alors Père, les 9 autres n'ont pas été sauvés ou pas? Et est-ce que l'action de grâce nécessite toujours vraiment donner quelque chose ou même venir seulement dire merci en fin de partie? Le mot « Va, ta foi t'a sauvé » est toujours dit aux malades. Est-ce que c'est toujours dit aux malades? C'est une question. Et la purification d'eau peut-elle se faire aussi, même de nos jours? Voilà une série de questions de Christophe Kalinga et Monique Kidima depuis l'ICASI, donc le couple Chrysostome.
On recommence par la première question, évidemment.
Oui, la première question.
Une à une.
Oui. La première question, il revient un peu sur les 9 autres qui ne sont pas revenus. Est-ce que Jésus, les 9 là n'étaient pas sauvés parce qu'ils ne sont pas revenus ou pas?
Dans l'immédiat, on considère que ils ne sont pas sauvés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas bénéficié du salut de l'âme en ce moment-là. Mais on ne connaît pas leur histoire, parce qu'après, l'Évangile ne parle plus d'eux. On espère que si dans l'immédiat, ils ne sont pas revenus vers Jésus pour lui témoigner, pour témoigner plutôt de leur reconnaissance à l'égard de Jésus, peut-être qu'ils l'ont fait plus tard. Peut-être que ce souci pour le salut de l'âme viendra plus tard dans leur vie.
Et la deuxième question, le mot « va ta foi t'a sauvé » est toujours dit aux malades?
Et oui, je pense que les malades doivent chercher non seulement la guérison physique, mais aussi le salut de l'âme, c'est-à-dire la conversion, le salut au sens spirituel. Ça, c'est très important, très important. Mais pour arriver à cela, il faut la foi. Voilà ce que Jésus dit est important. Il dit, va, ta foi t'a sauvé. La foi, nous l'avons déjà dit, en lingala, c'est koyamba. C'est-à-dire, la foi, c'est le fait de chercher, d'adhérer à Dieu et de chercher à demeurer en communion avec lui. Donc ce que Jésus dit, veut en d'autres termes dire, va, comme tu cherches la communion avec Dieu, tu es sauvé. Parce que la recherche de la communion avec Dieu, c'est ça la démarche de tous ceux qui croient. Les croyants authentiques cherchent toujours à être en communion avec Dieu. Et donc, tout malade qui, au-delà de son épreuve physique, cherche cette communion avec Dieu, eh bien, va parvenir au salut.
081 99 66 098. On va prendre les deux questions qui sont restées. Christophe Kalinga et Monique Kidima qui nous ont écrit depuis Likasi. Est-ce que l'action de grâce nécessite toujours donner quelque chose ou même venir seulement dire merci?
Bon, d'abord, je replace un peu, je situe ma réponse d'abord par rapport au contexte de l'époque. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque un lépreux est purifié, il a besoin d'un prêtre qui doit l'accompagner pour qu'il puisse réintégrer la communauté juive. C'est-à-dire qu'on puisse le déclarer à même d'entrer au temple, de prier avec les autres temples, d'aller à la synagogue prier avec les autres. Alors ces prêtres-là l'accompagnent en offrant des sacrifices. Ce sont des sacrifices de réparation. Comme la personne avait la lèpre, maintenant il s'est purifié, il a été purifié, il est redevenu pur. Il faut supplier le Seigneur pour que le Seigneur puisse encore l'accueillir parmi d'autres juifs qui sont en prière au temple ou à la synagogue. Et qu'ils vivent pas seulement le temple ou la synagogue, mais même au niveau social, qu'ils puissent fraterniser, vivre avec les autres. Alors maintenant, on exigeait de l'argent. Ça, c'est dans le contexte de l'époque. C'est moyennant une contribution financière selon la poche ou selon les moyens du lépreux qu'on est en train d'accompagner. Il y avait toujours quelque chose qu'on donnait. Il n'y avait pas une tarification, des propositions tarifaires précises, mais en tout cas, c'est comme cela. Si vous lisez des textes des rabbins à l'époque, c'était comme ça, la Mishnah l'a dit. Le Talmud aussi, je crois, que quand on accompagnait les lépreux devaient donner quelque chose au prêtre. Donc pour les juifs, ce genre de questions-là ne se posaient pas. Ça se pose pour nous aujourd'hui. Est-ce qu'il faut-il donner ou pas? Pour eux, ils savent que le prêtre est à temps plein au service du Seigneur, au service du peuple de Dieu. Il n'a pas autre chose à faire. Et donc, il faut absolument le prendre en charge. Donc s'il prie pour vous, il vous bénit, vous donnez quelque chose selon vos moyens. Hein, et donc voilà ce que moi je peux dire. Alors en appliquant ça aujourd'hui, je dirais, bon, donnez selon vos moyens. Si vous n'en avez pas, bon, ça peut arriver. Aujourd'hui, quelqu'un n'a rien, on ne va pas lui refuser la prière ou la bénédiction ou la messe. Hein, on sait que dans certains diocèses, on a quand même fixé les montants pour les intentions de messe, tout ça. Bon, chez nous, en tout cas, pour autant que je sache, il n'y a pas un montant précis. Mais donnez selon vos moyens. Comme Paul dit dans 2 Corinthiens 9, 7. Et si vous n'en avez pas, bon, le prêtre ne va pas refuser de prier pour vous.
La dernière question, la purification d'eau peut-elle se faire de nos jours?
Purification
d'eau.
Purification d'eau, mais je ne sais pas dans quel contexte la question a été posée.
C'est comme quand on a demandé à un amant de plonger.
Ah, ok. Mais c'est-à-dire qu'il y avait, en Israël, il y avait ce qu'on appelait l'eau sacrée. Il y en avait, on a au moins deux exemples dans la Bible. Si Élisée demande à Naaman d'aller se laver au Jourdain pour être purifié, il y va et puis voilà, il est purifié. C'est qu'on considérait l'eau du Jourdain comme étant sacrée dans le contexte de l'époque. Il y a aussi la piscine de Bethesda à Jérusalem. Vous vous rappelez de ce paralytique-là dont parle Saint Jean et qui attendait que quelqu'un puisse le jeter dans l'eau pour qu'il soit guéri. Et finalement, bon, personne ne pouvait ne l'aider pour qu'il puisse se purifier à partir de cette piscine-là. Alors Jésus lui dira simplement « Prends ton brancard et marche ». Donc ça signifie que cette piscine-là constitue encore aujourd'hui à Jérusalem. Ceux qui visitent Jérusalem, on leur montre cette fameuse piscine qui était réputée être thérapeutique, dont les eaux étaient réputées thérapeutiques. Voilà. Donc il y avait des eaux sacrées qu'on considérait comme étant en mesure de purifier les gens, de guérir les gens. Alors aujourd'hui, bon, vous avez l'eau bénite qui était sacramentale, mais vous avez aussi l'eau sacrée de Lourdes. Il y a parfois des sites où Marie était apparue, où il y a de l'eau considérée comme l'eau sacrée.
Bonjour, ma radio. On nous demande dans nos églises de faire une action de grâce après un bienfait de la part des dieux ou après nos intentions de prière. Pourquoi le prophète Élisée a refusé celle du lépreux Naaman qui voulait remercier le Dieu d'Israël et s'est décidé de ne pas servir d'autre Dieu que celui d'Israël? C'est maman Alice.
Évidemment, dans les contextes de l'époque, on veut montrer qu'Élisée est différent d'autres prophètes. Naaman vient de la Syrie. En Syrie, il y avait aussi des prophètes. C'est vrai que pour certains, ce ministère-là était aussi en même temps était une vache à lait. Vache à lait, c'est-à-dire qu'ils en profitaient beaucoup financièrement. Comme aujourd'hui, il y en a qui profitent aussi de façon exagérée de leur ministère dans l'une ou l'autre église. Ils en ont fait vraiment la vache à lait, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'argent, eh bien vous n'aurez pas des faveurs spirituelles qu'on veut vous accorder. Alors, voilà pourquoi Élisée veut faire la différence. C'est pour montrer qu'il est différent des prophètes de l'époque, notamment des prophètes de divinités païennes qu'il y avait en Syrie ailleurs. Il veut juste montrer qu'il est différent des autres. Mais dans le contexte de l'époque, bon, les prophètes vivaient de ce que les gens lui donnaient. On se rappelle de la veuve de Sarepta, n'est-ce pas, qui avait servi le prophète. Et il avait même aménagé un local, une chambre pour le prophète. Donc, il y a des exemples qui montrent que les prophètes étaient pris en charge par le peuple de Dieu à l'époque. Mais dans ces cas précis-là, c'est un exemple que Élisée veut donner à Naaman pour montrer à Naaman que je suis différent d'autres prophètes, surtout des prophètes des nations païennes, qui avaient fait de leur ministère de prophète une véritable vache à lait.
081 99 66 098, Vincent de la paroisse de l'Emmanuel à Goma. Bonjour Radio Maria. Jésus avait demandé aux 10 lépreux d'aller se présenter aux prêtres pour constater leur guérison. Les 9 ne sont pas rentrés parce qu'ils ont préféré aller voir le prêtre en premier lieu. Et c'est lui qui est rentré vers Jésus, peut-être parce qu'il était juif, pour accéder au temple.
C'est une bonne observation. C'est-à-dire que le Samaritain revient directement chez Jésus. Parce que lui, il n'a pas besoin d'aller se présenter aux prêtres juifs. Parce que nous sommes au sud. Donc nous sommes encore au nord, évidemment, entre la Galilée et la Samarie. Mais les autres sont évidemment des pratiquants de la religion juive attachés au temple de Jérusalem. Le Samaritain, on suppose qu'il prie au temple de Samarie. Il y avait aussi un temple en Samarie. Alors, donc lui, au lieu d'aller se présenter chez le prêtre qui va l'autoriser à aller au temple du Sud, voilà pourquoi il revient chez Jésus. J'ai une observation qui est intéressante. Évidemment, les autres auraient dû faire autant. Auraient dû faire autant, peut-être aller d'abord chez le prêtre et puis revenir chez Jésus. Mais l'Évangile ne parle plus d'eux, Ça signifie qu'ils ne sont jamais revenus chez Jésus.
Un autre message, celui d'Arsène Ikan de la paroisse Marie-Reine des Apôtres. Bonjour à vous et merci pour cette catéchèse. Quelle leçon Luc veut-il transmettre sur l'universalité de l'Alliance et les rôles des marginaux? Car il met un accent particulier sur la Samarie avec la parabole du bon Samaritain et des 10 lépreux.
Oui, c'est ça. Donc la Samarie, il n'y a pas que Luc, il y a aussi Jean. En Jean 4, il y a la Samaritaine d'ailleurs, hein. Comment Jésus évangélise la Samarie, où il est accueilli d'abord par cette femme, la Samaritaine, et puis après, bon, l'évangile va finalement entrer en Samarie. Alors, chez Luc, c'est vrai, parce que ça fait partie du plan pastoral de Jésus. Depuis Luc 4, hein, Jésus a dit clairement que l'Esprit du Seigneur est sur lui, et lisant, reprenant Isaïe notamment, il a envoyé, hein, proclamer une année de bienfaits du Seigneur pour redonner la vue aux aveugles et puis faire entendre les sourds, proclamer une année. Donc, c'est-à-dire, c'est Luc, c'est l'évangile des pauvres, si vous voulez. Donc, c'est quelqu'un qui est très, très attentif à ceux qui sont méprisés dans la société. C'est le Magnificat de Marie, hein, en Luc 1. Marie chante le bonheur des pauvres, le bonheur des marginalisés, le bonheur des exclus. Donc ça commence déjà dès le premier chapitre de Luc avec le Magnificat de Marie. Et puis ça revient en Luc 4 quand Jésus présente son plan pastoral avec un accent très très particulier sur le pauvre. Et voilà pourquoi bon, les Samaritains vont aussi en tirer profit. Parce que les Samaritains étaient justement considérés par les Juifs du Sud comme étant impurs. Pourquoi impurs? Parce que dans l'histoire, on considère que les Samaritains, c'est le mélange des Juifs avec les Assyriens. Donc, ce sont des Juifs mélangés au sang des Assyriens, et d'où on les appelle Samaritains. Depuis le 8e siècle avant Jésus-Christ, hein, lors de la destruction du royaume du Nord par Sargon II d'Assyrie, il y avait beaucoup d'Assyriens qui s'étaient installés au Nord, notamment dans ce terroir que la Samarie. Et puis, il y a aussi des Juifs de la Samarie partis en exil en Assyrie. Alors, ces mélanges entre Juifs et Assyriens a donné lieu à cette, je dirais pas race, mais à ce peuple dit Samaritain, qui sont Juifs, mais ils sont aussi les Juifs mélangés aux Assyriens. Alors, ceux du Sud s'est considéré comme purs, et ils se disaient Hébreux, fils d'Hébreux. Par exemple, ça revient chez Paul, hein, Paul en Philippiens 3, se considère comme Hébreux, fils d'Hébreux, c'est-à-dire il est de la race pure, un hein, peuple du sang pur hébreu, tandis que les Samaritains, bon, on les considérait un peu comme des gens, un peuple qui n'est pas pur, parce qu'ils ne sont pas des Juifs, au sens strict du mot, il y a en eux le sang des Juifs et des Samaritains.
Depuis Bandundu, la paroisse Saint-Paul, c'est Charles Tawaba qui nous écrit. Bonjour ma radio. Voyant le regret de Jésus, ne pouvons-nous pas croire que les 9 autres étaient aussi guéris? Bien sûr qu'ils étaient ingrats.
Oui, ils étaient guéris. Ils étaient guéris, mais bon, dans l'immédiat, dans le contexte direct hein, de Luc 17, eh bien, ils n'ont pas accédé au salut. Ils sont guéris, mais ils n'ont pas encore reçu le salut. Voilà. Mais on espère que, bon, ce n'est pas. Même si l'Évangile ne parlera plus d'eux, on espère que, bon, ils pourront toujours avoir cette opportunité hein, d'accueillir l'Évangile de Jésus et puis de se convertir.
On va écouter Kétia depuis Bukavu.
Bonjour ma radio, bonjour mon père, bonjour maman Régine. Merci beaucoup, mon père, pour cette belle catéchèse, malgré les problèmes techniques. Mon père, ce que je n'arrive pas à comprendre dans l'évangile d'hier, l'Église nous a toujours enseigné que seuls les prêtres pouvaient affirmer ou bien confirmer la guérison d'un lépreux à l'époque de Jésus. Mais l'évangile d'hier nous montre que Jésus a envoyé les 10 lépreux aller voir le prêtre avant même la guérison. La guérison les a atteints, ou bien ils ont eu la guérison sur le chemin. Pourquoi cela, mon père? Donc, malgré qu'avoir la foi, ils avaient la foi, oui. Est-ce qu'ils savaient, qu'ils seront guéris sur le chemin, ou comment, mon père? La deuxième question. pourquoi c'est sur le chemin de Jérusalem, sur le chemin de la croix. Mon père, les autres, tous disent d'abord, ils ont été guéris. Mais l'unique a été sauvé. Peut-on dire que la gratitude est une forme de foi? Et pour finir, mon père, est dans notre langue, on nous a toujours dit, même à l'église, on nous a toujours enseigné, c'est pour dire que faire des bonnes choses sans attendre la gratitude ou bien le remerciement. Mais dans l'évangile d'hier, Jésus demande où sont partis les 9 autres. Peut-on dire que Jésus attendait la gratitude ou bien comment? Merci beaucoup, mon père. C'est Kétia depuis Bukavu.
Merci à Kétia.
Merci beaucoup à notre sœur Kétia depuis Bukavu. La première question, le prêtre, hein? Et pourquoi cette guérison en cours de route? Est-ce qu'il savait qu'il serait guéri? D'abord, merci à Kétia pour la question, ou pour toutes ces 4 questions. Jésus ne le guérit pas tout de suite. Il pouvait aussi le faire. Mais ils vont recevoir leur guérison en cours de route. Luc veut montrer l'importance de la parole de Dieu, la parole qui guérit. Ils sont guéris par la parole de Jésus. Jésus dit, allez vous montrer au prêtre. Et en allant, ils sont guéris en cours de route. Et de deux, pourquoi l'allusion au prêtre? C'est parce que Jésus veut respecter l'ordre établi. Jésus n'est pas un délinquant. Il respecte l'ordre établi. Dans la société juive, c'est comme cela que ça se passe. Le prêtre joue ce rôle-là et Jésus respecte. Alors qu'il est, fils du Dieu Tout-Puissant, vrai Dieu, vrai homme. Il pouvait faire autrement, mais il respecte l'ordre établi. Donc, il y a une tension entre le respect de l'ordre établi et la guérison qui vient de Jésus. La guérison ne vient pas du prêtre. Voilà pourquoi ils sont guéris avant même d'arriver chez le prêtre. Jésus respecte l'ordre établi. Voilà pourquoi il leur dit, allez voir le prêtre. Donc voilà comment on peut comprendre cet évangile-là. Donc, ils sont guéris parce qu'ils ont obéi à ce que Jésus leur a dit de faire. Donc c'est la parole de Dieu qui guérit, c'est pas le prêtre. Mais en même temps, Jésus les envoie chez le prêtre parce que Jésus respecte l'ordre établi. Il voudrait que le prêtre aussi puisse témoigner. Parce qu'il va certainement demander aux lépreux, mais qui vous a purifié? Ils diront Jésus. Alors le prêtre, on suppose, deviendra lui aussi témoin de cette guérison. Alors la deuxième question, pourquoi c'est sur la route de Jérusalem? Comme je disais tout à l'heure, c'est depuis le 8e chapitre que Jésus est en marche vers Jérusalem. 8e ou 9e chapitre. Donc c'est un long voyage. Pratiquement, l'évangile de Luc, géographiquement parlant, a une structure bipartite. La première partie, de Luc 1 jusqu'à 8, tout se passe presque en Galilée, et puis un peu au sud, avec l'apparition de l'ange, et puis la naissance de Jésus, tout ça. Mais le ministère de Jésus se passe au nord. Et puis à partir du 8e chapitre, jusqu'à la fin, il est en route jusqu'à Jérusalem, où on va l'arrêter, on va le tuer, et puis il va ressusciter. Donc, il y a cette double structure de l'évangile de Luc du point de vue géographique. Alors, il est en route vers Jérusalem. Il accomplit des miracles pour montrer que même si la passion approche, mais il reste compatissant, il reste proche des gens, il continue à faire le bien, même si la passion est proche. Et alors, la gratitude, c'est ça la troisième question.
Comme forme de foi.
Les autres sont partis, n'est-ce pas? On ne va pas les juger sévèrement, mais ce qui est vrai, c'est qu'ils ne sont pas revenus dans l'immédiat. Celui qui est revenu, qui a été reconnaissant, conséquence, Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Donc, il aura le salut, parce qu'à cause de la reconnaissance, à cause de l'action des grâces, c'est important de savoir dire merci à Dieu, même s'il y a des choses peut-être qui ne marchent pas dans la vie. Mais n'oubliez pas ce qui marche. Comme dit le psalmiste, Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est le thème de nos 10 ans comme radio catholique en RDC que nous allons célébrer le samedi prochain. Le thème, c'est Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Il y a encore une question, je
crois. Oui, la dernière question, est-ce que faire le bien, il faut attendre une gratitude? Pourquoi? C'est que Jésus, quand il voulait qu'on puisse revenir, voilà.
Oui, Jésus le dit parce que, bon, Jésus voudrait nous éduquer à dire merci. Hein. C'est comme un parent qui veut éduquer ses enfants à dire merci. Alors, quand l'enfant dit merci, il ne va pas refuser. Il ne va pas dire, bon, ça ne sert à rien de me dire merci. Et au contraire, il va l'encourager à dire merci. Donc, Jésus se comporte là comme un éducateur qui veut que nous puissions toujours rendre grâce à Dieu. Et c'est très important de rendre grâce à Dieu. Mais si il arrivait que quelqu'un que tu as aidé ne t'a pas remercié, ce n'est pas un motif pour le sanctionner prochainement en disant, bon, la fois passée, tu ne m'avais pas remercié, maintenant je ne peux pas t'aider, non. Vous pouvez peut-être le lui rappeler, mais cela ne vous empêche pas de continuer à le servir.
081-99-66-098. Maman Aimée, vous avez la parole.
Merci beaucoup, Régine. Merci, Père, pour la catéchèse d'aujourd'hui. Ma première préoccupation, mon Père, c'est dans la première lecture. On voit le général syrien Naaman, après sa guérison, demande de prendre la terre d'Israël. Que symbolisait la terre, mon Père, à cet instant?
Oui, merci pour la question, la première question de Maman Aimée. La terre, ça nous montre déjà ce qu'on appelle la terre sainte. Aujourd'hui encore, quand les gens partent en Israël, ils reviennent avec la terre d'Israël. On le vend même, hein. Il y a des petites bouteilles où on met la terre d'Israël, la terre sainte, d'autres flacons où on met l'eau du Jourdain, et puis l'huile des olives, hein, qui nous rappelle un peu le mot des oliviers, tout ça, sont des choses aujourd'hui qu'on peut trouver en Israël, parce que justement, c'est depuis l'aube des temps que les gens ont toujours considéré certains terroirs comme étant terre sainte. Et donc voilà pourquoi il prend cette terre-là. Aujourd'hui, on dira que ça fait partie de ce qu'on appelle des sacramentaux, aussi pas reliques. Et peut-être reliques, hein, c'est ça le mot le plus adapté.
Ma deuxième préoccupation, mon Père, le dit le preuve, c'est comme si c'est Luc seulement qui en parle. Et le début du texte, Jésus monte vers Jérusalem pour souffrir sa passion. Or, cette guérison intervient pendant qu'il allait à Jérusalem, mon Père. Est-ce que ça a une connotation, on peut dire, différente par rapport aux autres guérisons? 9 seulement ont été guéris et seulement un qui n'était pas juif, qui lui a été sauvé et guéri. Donc, lui a bénéficié de... deux choses, si on peut dire, provenant de Jésus. S'il y a une différence, mon Père, vous pouvez un peu nous aider à comprendre.
Merci beaucoup. Donc, la guérison sur le chemin en allant vers Jérusalem, c'est très, très important. Parce que, en fait, Jésus est en train d'exercer encore son ministère. Ce n'est pas encore la fin de son ministère public. Il va exercer son ministère jusqu'à la dernière minute avant sa mort. Peut-être même à la dernière seconde. Parce que sur la croix, il continuera à exercer son ministère. Il pardonne, surtout dans l'évangile de Luc. Hein, Jésus fait la pastorale sur la croix. Il pardonne, il dit « pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Ça, ça apparaît chez Luc. Et puis le bon larron, il lui dit « aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis ». Donc Jésus, qui est à l'œuvre jusqu'à la dernière minute de sa vie ici sur terre, il continue à faire la pastorale. Alors voilà pourquoi sur la route de Jérusalem, même si c'est un voyage qui conduit à la passion, cela ne l'empêche pas de faire du bien, c'est-à-dire de guérir ce qui peut guérir. Et puis il annonce aussi la bonne nouvelle, il y aura d'autres choses qu'il va réaliser durant ce voyage-là.
Il s'appelle Jésus, Jésus maître. Mais le maître les envoie au sacrificateur, qui lui aussi, si je ne sais pas, était aussi maître. Pouvez-vous nous aider à comprendre, mon Père? Et l'obéissance est-il les conséquences, est-elle, pardon, la conséquence de la foi?
Merci beaucoup. Évidemment, il y a le sacrificateur, le prêtre, et puis Jésus, on l'appelle maître. Maître, on peut même remplacer maître par docteur de la loi, c'est-à-dire scribe. La question que moi je m'étais posée, pourquoi ils n'ont pas appelé Seigneur? Ça aurait été mieux qu'il appelle Seigneur, Jésus Seigneur, ou encore comme le cas de l'aveugle de Jéricho, Bartimée, qu'il avait appelé fils de David. Et donc, c'est quand même curieux, on l'appelle maître. Est-ce que maître, ça a une connotation aussi, il lui demande d'être leur avocat? C'est-à-dire que, bon, voilà notre situation, on ne peut pas, nous sommes exclus de la société. Est-ce que tu ne peux pas intervenir à notre faveur, maître? Parce que les docteurs de la loi jouaient évidemment ces rôles-là. Ce sont des gens qui aidaient le peuple de Dieu à comprendre la parole de Dieu, à l'interpréter, à l'appliquer. Alors, est-ce que ça a cette connotation? Eh bien, ce sont des questions qu'on peut se poser. Mais dans tous les cas, lui, il les envoie chez les sacrificateurs, hein, comme vous le dites, parce que c'est le rôle du sacrificateur d'attester que, voilà, ils sont capables maintenant, ils sont purs et à même de participer à la prière au temple, à la synagogue. Et Jésus voudrait que ces personnes guéries réintègrent la communauté juive. Il n'a jamais demandé à quelqu'un, obligé quelqu'un à le suivre parce qu'il a guéri. Et c'est comme le fils unique de la veuve de Naïm. Jésus l'a réanimé et puis Jésus l'a remis à sa mère. C'est ça ce qu'il fait. Ça, c'est l'attitude de Jésus. Chaque fois qu'il guérit, il laisse la personne libre. Il ne demande pas à la personne de le suivre parce qu'il a guéri. Au contraire, à d'autres personnes, il dit « suis-moi ». Ceux qu'il n'avait pas guéri. Mais à ceux qu'il guérit, il ne dit jamais « suis-moi ». Mais si la personne veut le suivre, bon, il le suit. Alors, voilà pourquoi il dit « aller chez les prêtres ». C'est-à-dire, guérir, rentrer, prier là où vous priez. Et c'est ça la leçon qu'on peut tirer. Il ne leur dit pas « suivez-moi ». Non. Aller chez les prêtres, il va attester que vous êtes guéri et puis vous commencez à fréquenter la synagogue. Ça, c'est intéressant. Donc, concrètement, aujourd'hui, pour nous, ça signifie quoi? Que je ne peux pas aider quelqu'un, lui demander de devenir catholique. Parce que je l'ai aidé. Non. Je l'aide qu'il aille prier là où il veut. C'est ce que Radio Maria fait. On sait que beaucoup des gens qui ne sont pas catholiques suivent Radio Maria. Nous n'avons jamais demandé à ceux-là de devenir catholiques. On n'a jamais obligé. Mais c'est lui qui veut. Bon, la porte est ouverte. Mais on ne peut pas obliger, on ne peut pas demander non plus. On ne demande pas. C'est ce que Jésus fait. Il ne leur demande pas de devenir des chrétiens. Il leur dit, allez chez les prêtres, c'est-à-dire, allez, reprenez votre vie dans votre communauté de prière chez les juifs. Alors, c'est vrai que l'obéissance a comme conséquence, la foi a comme conséquence aussi la guérison. Ils sont guéris parce que ils ont obéi à la parole de Jésus. Aujourd'hui, peut-être, certains parmi nous discuteraient. Vous venez à la prière, bon, on vous dit non, allez d'abord faire cela. Ah, mais non, parce que il y en a qui discutent un peu. Mais Jésus est devant des gens qui ont la foi. Il faut le reconnaître. Parce qu'ils ont obéi à la parole de Jésus. Et voilà pourquoi l'obéissance a eu comme conséquence leur guérison. Et puis, bon, l'autre aura le salut. Parce que on distingue deux choses. La guérison, c'est le salut du corps. Le salut dont parle Jésus quand il dit « ta foi t'a sauvé », c'est le salut de l'âme. Hein, c'est du point de vue spirituel. Et c'est le salut de l'âme dont nous avons aussi besoin. Ce n'est pas seulement la guérison physique dont on a besoin. On a besoin aussi du salut de l'âme, de la conversion, de cette foi qui nous permet de rester attachés à Dieu pour qu'un jour nous puissions aller au ciel.
Alors on va terminer cette première partie par cet audio. On va écouter.
Bonjour ma radio, bonjour maman Régine, bonjour mon père. Juste une préoccupation. Lorsque les lépreux ont rencontré Jésus à l'entrée de la ville, vous avez dit que selon la parole, que les lépreux étaient partis pour prévenir Jésus de ne pas entrer dans la ville pour qu'ils ne soient pas contaminés. Maintenant, la façon dont ils se sont adressés à Jésus en disant « Aie pitié de nous ». C'était une façon de demander la guérison où ils étaient partis là-bas juste pour prévenir Jésus que il y a un danger ici, il y a une maladie contagieuse, il ne faut pas entrer. C'était juste ça ma préoccupation. C'est maman Sylvie Makonga de la chapelle Mariam Takatifoma Mungu à Kasamba ou Kasumbalesa. Merci beaucoup mon père et bonne journée.
Merci maman Sylvie.
Merci à maman Sylvie qui nous suit vers Kasumbalesa hein, grâce à Radio Maria Lubumbashi qui nous relaie en ce moment. Mais il y a deux choses, maman, parce que dans la tradition, qu'est-ce qui s'est passé? Si vous êtes lépreux et que vous entendez le bruit des gens, vous devez vous annoncer comme lépreux. Vous devez dire « impur, impur ». C'était comme ça. Le lépreux se couvrait hein, avec des habits, n'est-ce pas, qui montraient qu'il est malade, il a la lèpre. Puis, dès qu'il entend des gens venir, il devait dire « impur, impur ». Pour que les gens ne s'approchent pas de là où ils sont. Sinon, ils seront contaminés. Alors, mais heureusement que maman a posé cette question. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Hein? Mais bon, on n'a pas de temps pour tout dire. Mais voilà, ça c'est un aspect important. Dans la tradition juive, eh bien c'était comme ça à l'époque de Jésus. Les lépreux, dès qu'ils écoutaient le bruit des gens, parce qu'ils étaient en quarantaine, dès que les gens venaient vers eux, eh bien ils criaient « impur, impur ». Dès que vous entendez ça, vous comprenez que ce sont des lépreux et puis vous évitez d'aller proche de l'endroit où ils se trouvent. Alors maintenant, ces lépreux font le contraire. Ils avisent que, attention, nous sommes là, selon la tradition. Mais ce qui est différent, c'est qu'au lieu de dire impur, impur, ils ont dit Jésus, maître, aie pitié de nous. C'est ça, ce qui est différent. Mais la pratique reste la même, en fait. Ils avisent les gens que, attention, nous sommes là. Mais au lieu de dire « impur, impur », ils disent « Jésus, maître, prends pitié de nous ». Donc, en fait, ils combinent les deux choses. Ils alertent de leur présence, mais en même temps aussi, ils sollicitent la compassion de Jésus pour ne pas dire la guérison.
Merci Père, c'est la fin de la première partie de cette catéchèse. Un dernier mot.
Bon, le dernier mot, c'est toujours la joie de servir hein, le Seigneur devant ses micros. Sur les ondes mariales, cette semaine est très très décisive. Hein. C'est la semaine où nous allons célébrer nos 10 ans de présence comme Radio Catholique Nationale hein, en RDC. La présence de Radio Maria dans notre pays est beaucoup plus vieille que ça, parce que déjà à Kananga, on avait commencé en 2009 à Kananga. De Kananga, nous sommes allés à Bukavu en 2012, même si Bukavu a été inauguré officiellement en avril 2014. Et puis finalement, comme Radio Nationale, elle a été inaugurée par le nonce apostolique, hein, Adolphe Tito Ailana, Monseigneur Adolphe Tito Ailana, alors nonce apostolique, en présence de deux évêques auxiliaires hein, qui étaient revenus représenter les cardinals Monseigneur de Reuse Mémoire, qui était absent, il était en voyage. Alors il avait délégué à l'époque Monseigneur Timothée Bodic, actuellement évêque de Kikwit, et puis Monseigneur Edouard Kisonga, d'heureuse mémoire aussi, et il nous a quittés il y a à peine quelques mois. Et donc voilà, il y avait les nonces apostoliques, et puis ces deux évêques auxiliaires de Kinshasa venus représenter le cardinal Monseigneur à l'époque, c'était le 31 octobre 2014. Donc en fait, ça fera 11 ans cette année. On a pris, la 10e année a été considérée, a été pour nous une année d'évaluation pour revoir certaines choses, et on s'est préparé pour célébrer cette décennie, la première décennie de Radio Maria dans notre pays, ce samedi, avec la messe que présidera son éminence le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa. Ce sera à 9h à la cathédrale Notre-Dame du Congo, ici à Kinshasa, ce samedi 18 octobre. Hein, portez dans nos prières, hein, portez Radio Maria dans vos prières, spécialement cette semaine qui va se conclure avec la célébration de notre première décennie en RDC comme Radio Catholique Nationale. Merci.
Merci beaucoup, Père Roger. Merci à vous, chers auditeurs de Radio Maria, d'avoir participé à cette catéchèse. Comme toujours, merci à Gina qui a été à la réalisation. Merci aussi à Maman Aimée qui est avec nous. Père, la prière de clôture.
Volontiers. Nous allons, en ce mois du rosaire, demander l'intercession de la Vierge Marie à travers l'Ave Maria, pour que Marie intercède pour nous, pour que nous puissions mettre en pratique cet évangile. Que le Seigneur nous guérisse par l'intercession de Marie de la lèpre du péché. Aujourd'hui, la lèpre a aussi une forme spirituelle. C'est la lèpre du péché. Qu'il guérisse aussi les malades qui nous suivent dans des hôpitaux, qui redonnent la paix du cœur aux prisonniers, aux victimes de la guerre, spécialement dans la partie est de notre pays, aux pauvres, aux personnes qui traversent des moments difficiles. Que le Seigneur manifeste cette compassion dont le lépreux était bénéficiaire. Chaque fois que nous allons dire cette prière comme le lépreux, Jésus Maître, prends pitié de nous, disons cela avec foi, parce que Jésus n'a pas changé, il est le même. Ce qu'il a fait pour le lépreux, il peut aussi le faire pour chacun de nous. Voilà pourquoi nous allons prier Ave Marie et puis après, nous allons clôturer en redisant la même prière que le lépreux à trois reprises. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Jésus, Maître, prends pitié de nous.
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 Le Seigneur soit avec vous
et avec votre esprit.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde sous sa constante protection, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.
Amen. Amen.